Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 2019 chez La Découverte, « Le français est à nous » est un essai de sociolinguistique politique signé par Maria Candéa et Laëlia Véron. Sous la forme accessible d'un petit manuel, le livre conteste le récit selon lequel le français serait continuellement menacé par les anglicismes, les usages numériques ou les transformations sociales. Les autrices ne proposent ni une célébration naïve de tous les changements, ni un cours de grammaire traditionnel. Elle donne des repères pour comprendre comment se définissent une langue, une norme, une faute et une variété linguistique, puis examine les rapports de pouvoir cachés derrière ces catégories. Leur démarche associe histoire du français, analyse des institutions et réflexion citoyenne. Elle montre que les débats sur le bon usage concernent souvent aussi la classe sociale, le genre, la scolarisation, les langues minorées et les héritages coloniaux. Le projet central consiste donc à rendre au locuteur une capacité de discussion informée sur une langue qui change et qui appartient à celles et ceux qui la pratiquent. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le français comme réalité historique et non comme monument immobile. Le livre part d'une idée simple mais décisive, le français ne constitue pas un objet fixe dont il faudrait conserver une version originelle. Les autrices rappellent que son histoire est faite de contacts, de transformations et de codifications successives. Cette perspective permet de relativiser les annonces récurrentes de déclin provoquées par les emprunts, les innovations lexicales ou les pratiques numériques. Un mot ne devient pas naturellement français parce qu'une autorité le déclare tel. Son installation dépend des usages, des circulations sociales et du temps. De même, l'existence du français ne commence pas de manière nette avec un document fondateur. Les débats sur les serments de Strasbourg illustrent la difficulté de tracer une frontière stable entre latin, langue romane et français. Cette mise en histoire ne vise pas à nier les normes ou la nécessité de se comprendre. Elle distingue plutôt la description des pratiques de la nostalgie pour un passé imaginaire. En montrant que Molière lui-même écrivait dans un français différent de celui enseigné aujourd'hui, l'ouvrage rend visible le caractère construit des évidences linguistiques. Aimer une langue dans cette optique signifie connaître sa diversité et sa mobilité plutôt que défendre une pureté fictive. Deuxièmement, la faute linguistique révélée comme jugement social et outil de sélection, une part essentielle de l'analyse, porte sur la notion de faute. Le livre ne soutient pas que toute forme se vaudrait dans toutes les situations. Il explique en revanche que les règles scolaires et les jugements de correction répondent à des histoires sociales précises. Une norme commune peut faciliter certains échanges, mais sa maîtrise inégale produit aussi de la distinction et de la sélection. L'orthographe. La grammaire scolaire et les manières de parler deviennent fréquemment des critères pour évaluer une intelligence, une légitimité ou une moralité, alors qu'il signale souvent des trajectoires d'apprentissage et des milieux sociaux. Les autrices invitent donc à séparer une difficulté réelle de communication du mépris envers des locuteurs. Elles interrogent aussi la pluralité des français usages régionaux, sociaux, professionnels et francophones ne se réduisent pas à une unique variété parfaite. Cette démarche modifie le sens de la correction. Corriger peut relever de l'apprentissage de codes utiles, notamment dans les études ou le travail, mais ne devrait pas servir à présenter certains groupes comme déficients. Le livre insiste ainsi sur une pédagogie qui donne accès aux normes dominantes tout en expliquant leur histoire, leurs limites et leurs effets. La compétence linguistique devient un savoir partageable plutôt qu'un privilège naturalisé. Troisièmement, académie, dictionnaire et grammaire comprendre qui fabrique la norme. Le français est à nous examine les institutions et les objets auxquels les débats publics attribuent volontiers une autorité absolue. Les dictionnaires, les grammaires et l'Académie française ne sont pas traités comme des arbitres hors du temps. Les autrices expliquent leurs fonctions, mais aussi les choix qui président à la fixation et à la diffusion des normes. Un dictionnaire décrit, sélectionne et hiérarchise des usages selon une méthode éditoriale. Il ne crée pas seul les mots ni ne peut arrêter leur évolution. L'Académie française possède une forte visibilité symbolique sans exercer un contrôle total sur les pratiques ordinaires des locuteurs, des écrivains, des enseignants ou des médias. Cette clarification est importante car l'appel à une autorité linguistique sert souvent à clore une discussion sociale déjà conflictuelle. Le livre critique la confiscation du débat par des experts autoproclamés et par un discours de protection patrimoniale qui masque parfois des préférences de classe ou des positions conservatrices. Il ne remplace pas une autorité par une autre, il donne des critères pour distinguer prescription, description et décision politique. Le lecteur peut ainsi comprendre pourquoi une règle existe, comment elle est transmise et quels intérêts elle peut servir. La langue apparaît comme un domaine collectif, gouverné par des usages mais aussi par des institutions discutables. Quatrièmement, scolarisation. Langue locale et colonialité dans la fabrication du français national l'histoire politique du français occupe une place structurante dans le manuel. Les autrices montrent que la diffusion du français comme langue nationale ne peut être séparée de la Révolution, de la scolarisation de masse et des politiques menées contre les langues locales. Présenter le français comme une langue universelle et naturellement unificatrice efface les contraintes qui ont accompagné son implantation. L'école a largement contribué à imposer une norme écrite et orale, tout en dévalorisant des pratiques régionales ou populaires. Le livre relie cette histoire interne à la question coloniale, en examinant les hiérarchies construites entre formes de français et entre langues. Des désignations comme « français petit nègre » ne sont pas de simples curiosités lexicales, elles témoignent de rapports racialisés qui ont classé certains locuteurs comme inférieurs. La francophonie institutionnelle est elle aussi étudiée avec prudence. Elle ne se confond pas mécaniquement avec une communauté linguistique harmonieuse, car elle engage des intérêts diplomatiques, économiques et mémoriels. Cette analyse évite deux simplifications, condamner le français comme une essence oppressive ou le célébrer comme un bien neutre. Le français peut être une ressource de communication et de création, tout en ayant servi des politiques d'uniformisation. Reconnaître cette double dimension rend les discussions contemporaines sur le plurilinguisme plus rigoureuses. En dernier lieu, genre. Inclusivité et débat public, reprendre la langue sans céder à la panique. Le livre replace les controverses contemporaines sur la féminisation. Les formulations inclusives et le politiquement correct dans une histoire longue des normes. Les autrices refusent de traiter ces questions comme de simples attaques contre la grammaire. Les usages du masculin, les titres professionnels et les formes de désignation ont changé au fil du temps. Ils renvoient donc à des choix sociaux autant qu'à des mécanismes linguistiques. Cette approche permet de comprendre pourquoi les résistances sont souvent si vives. Une modification apparemment limitée des mots touche à la visibilité des personnes et aux représentations de la place de chacun dans la société. Le manuel ne réduit pas le sujet à une solution unique applicable partout. Il fournit surtout des outils pour examiner les arguments invoqués au nom de la clarté, de la tradition ou du génie supposé du français. Les autrices contestent en particulier l'idée que la langue posséderait une logique éternelle interdisant toute adaptation. Elles rappellent que les prescriptions ont elles-mêmes évolué et que les pratiques se négocient dans des contextes concrets. Cette méthode vaut également pour les polémiques sur les anglicismes ou le langage numérique. Au lieu de confondre changement linguistique et décadence collective, le lecteur est invité à demander qui parle, quel usage est visé, quel effet est produit et quelle norme est mobilisée. En conclusion, le français est à nous. Conviendra au lecteur qui souhaite dépasser les querelles convenues sur la prétendue dégradation du français. Il sera particulièrement utile aux élèves, enseignants, journalistes, parents et citoyens confrontés aux controverses sur la grammaire, les accents régionaux, les anglicismes, la féminisation ou les langues minorées. Les personnes déjà familières de la linguistique y trouveront surtout une synthèse engagée et orientée vers le débat public. Les débutants y trouveront des notions expliquées sans technicité excessive. Son bénéfice pratique tient à la capacité qu'ils développent repérer la différence entre un fait de langue, une règle scolaire, une préférence stylistique et un jugement social. Cette distinction aide à discuter avec plus de précision et moins de réflexes de disqualification. Son intérêt intellectuel est plus large, il relie les pratiques ordinaires de parole et d'écriture à des histoires de pouvoir, de scolarisation et de domination, sans réduire la langue à ses enjeux, comparé aux guides de bon usage ou aux essais alarmistes sur la perte du français. Le livre se distingue par son refus du catastrophisme et par son attention aux conditions sociales de la norme. Comparé à des ouvrages universitaires plus spécialisés, il se démarque par une forme de manuel avec définitions, exemples historiques et pistes pour poursuivre la réflexion. Il défend ainsi une appropriation critique du français, connaître les codes utiles, mais aussi savoir interroger les institutions et les récits qui les présentent comme naturels. Si vous souhaitez soutenir Maria Candéa, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.